Nous sommes le dimanche 3 mars, SMD, c'est parti. Bonjour Jean Grelier.
Bonjour Patrice, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce sport matin dimanche, second consécutif pour nous Patrice. Et nous allons, comme le week-end dernier, utiliser souvent le même mot, reporter. Lorsqu'il y a deux matchs de foot, ils n'ont pas pu se dérouler compte tenu de l'état des terrains. Nous ouvrirons ce sport matin dimanche avec Hugo Hay, la tête du SBAC, afin de faire un bilan avec lui de sa saison hivernale et de parler des grandes lignes de sa préparation qui doit l'amener vers le 5000 mètres des Jeux Olympiques de Paris. Nous parlerons ensuite de basket. En attendant le match de ce soir de Cholet à domicile face à Limoges, nous soulignerons la victoire des Chorésiennes face à Saran en National 3
et Vincent Noru.
Et Vincent Noru, qui assistait à ce match, nous dira tout sur l'enjeu et le résultat de cette rencontre. En football, nous retiendrons les victoires vendredi dernier des Chamois-Niortais et des Choletais en National 1, ainsi que celle de Choret hier en National 3, avec son nouvel entraîneur Fabrice Fontaine dans le derby face à la réserve des Chamois. Nous parlons aussi handball, volley, rugby, tennis et judo. Restez avec nous, à tout de suite.
Quant à la météo de ce dimanche, de belles éclaircies annoncées avec des températures maximales de l'ordre de 11 degrés.
Sport matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Et une fois n'est pas coutume, Jean, on commence par de l'athlétisme.
Oui, avec Hugo Hay, donc qui est avec nous ce matin pour parler de son bilan de la saison hivernale et puis surtout des perspectives pour les Jeux Olympiques. Bonjour Hugo.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Merci d'être dans ce sport matin dimanche. Donc c'était l'occasion de dresser un premier bilan de cette saison 2023-2024 à la fin de ce qu'on appelle en athlétisme la saison hivernale. Pour toi, elle s'est déroulée en deux parties, une partie cross avec les championnats d'Europe à Bruxelles après une sélection donc à Carhaix, et une partie indoor avec trois courses, hein, 1500 mètres à Metz couru en 3:38, un record personnel ensuite sur 3000 mètres à Liévin, puis une troisième place à Madrid dans une course assez particulière. Donc quel premier bilan tires-tu, toi, de cette saison hivernale ?
Ce qui était important pour nous cette année, c'est surtout de pouvoir bien m'entraîner, contrairement à l'année dernière où j'avais eu mes pépins, blessures et Covid. Donc le but, c'était vraiment d'enchaîner le plus de semaines consistantes possible, et ça, on a réussi. J'ai pas eu de gros problèmes, j'ai eu des petites choses, mais vraiment, vraiment rien dans une période hivernale. Donc sur ça, on est vraiment content, on a fait tout ce qu'on voulait faire, j'ai fait du volume, dans l'intensité, c'était bien, dans les données physiologiques qu'on avait, c'était bien. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et après, les quelques compétitions que j'ai faites, ça s'est bien passé. Ma course à Liévin en 7:40 tout seul, c'est-à-dire que je vais aller à peu près 7:35, je pense, dans une course idéale. Donc c'est vraiment des bons indicateurs, puisque c'était là qu'on voulait être à peu près cet hiver, sachant qu'on sait qu'il y aura encore de la marche pour cet été. Pareil à Carhaix, sur le cross, je m'étais senti bien, un peu moins bien aux Europes, mais bon, c'était pas un parcours pour moi. Donc non, globalement c'est une bonne saison hivernale, rien de flamboyant, mais c'était vraiment dans ce qu'on voulait faire, donc c'est vraiment important pour nous en tant que point de passage vers cet été.
Tu as choisi donc de ne pas participer aux Mondiaux indoor qui se déroulent ce week-end à Glasgow, ni aux Championnats de France de cross qui auront lieu le week-end prochain à Carmaux dans le Tarn. Qu'est-ce qui vous a amené avec ton coach à prendre ces décisions?
Déjà, Madrid c'était un peu tard dans la saison hivernal, donc on a hésité, mais bon, en faisant Madrid au lieu des mondes, ça m'a fait gagner quand même 7-8 jours de coupure, donc c'est pas énorme, mais c'est pas négligeable non plus. C'est surtout dû au fait que cet été le programme il va être chargé avec les championnats d'Europe début juin, avec les championnats de France fin juin, où peut-être je vais devoir jouer ma qualif pour les Jeux, et avec les Jeux forcément début août. Donc si on veut, notre objectif, c'est d'avoir encore une bonne période de travail là pour continuer à passer des petits câbles, pour continuer à bien travailler sur l'aérobie. Et donc le plus de temps on a, le mieux c'est pour nous pour nous préparer pour les Europes et pour les Jeux. Donc voilà pourquoi on a fait ce choix là. Les Europes c'est quand même tôt dans l'année, donc si on veut déjà être bien et pas non plus se précipiter à vouloir faire trop de travail qualitatif, il fallait avant avoir une grosse période de base où on peut s'entraîner, et là ça va être le cas parce que donc j'ai pris une semaine plus légère là maintenant, et là on va reprendre, et ça veut dire qu'il nous reste vraiment 2 mois entiers là pour faire de la base. Donc c'est très bien avant d'entamer une phase un peu plus qualitative pour les Europes et ensuite pour les France.
Alors justement dans cette préparation, déjà des destinations, un peu d'altitude, ou alors tout va se passer en Belgique ?
Non, là, je vais partir à Fréjus, au sud de la France, pour trouver un peu de soleil pendant 15 jours, parce que l'hiver a été long en Belgique. On n'a pas eu très très beau, et puis le soleil il se couche même très tôt là-bas.
Dans le bocage
donc,
aussi.
J'avais besoin d'avoir un peu de soleil, donc je vais partir 15 jours là-bas, et ensuite on va partir sur à peu près 6 semaines de stage en altitude, entre des chambres d'altitude à Courtrai, juste à côté de Lille, et un stage à Font-Romeu. Donc ça va jouer comme ça, et puis après je vais faire 2 ou 3 compétitions avant les Europes, et ensuite on partira à Saint-Moritz en Suisse pour préparer les Jeux.
Donc il peut y avoir aussi, on le sait, dans une saison des aléas qui imposent des changements. Est-ce que vous avez déjà parlé avec ton coach?
Oui, bien sûr. Bah, pour l'instant, on va dire le plan idéal, ce serait d'être bien aux Europes, de jouer la médaille aux Europes, qu'ensuite on soit moins de 4 athlètes à avoir fait les minima, et donc du coup que les France, ça compte pour du beurre, donc on n'ait pas besoin de faire un gros pic de forme pour les France, et pouvoir vraiment bien se préparer pour les Jeux, et après, fin août, faire un gros 5000, essayer d'aller chercher le record de France sur 5000, ça c'est forcément la saison idéale, mais on sait que il y a très peu de fois où ça se passe comme ça, donc forcément on a des plans B, on sait que si on a besoin, on n'ira pas faire les Europes, ou on changera de plan en fonction de ça, parce que vraiment nous l'objectif c'est d'être le plus fort possible au jeu, il n'y a que ça qui compte cette année pour moi, donc forcément oui, on sait qu'on va devoir s'adapter à la marge. Mais bon, on espère qu'on va continuer sur cette lancée de cet hiver où on n'a rien eu besoin d'adapter et tout s'est passé très bien. Donc faut espérer, faut travailler pour que ça continue comme ça.
Les Europes début juin, fin juin, donc cette obligation pratiquement de participer au championnat de France. Et est-ce qu'il y a d'autres courses prévues sur 1500 ou 3000 par exemple?
Normalement, ouais, j'ai eu 8 teams hier pour en discuter un peu. Donc normalement, je vais devoir faire un 5000 tout début mai, mais juste pour faire moins de 13-20 pour être sûr de me qualifier aux Europes. Et ensuite, je vais faire sûrement 2 1500 ou un 1500 et un 3000 à la mi-mai en sortant de Font-Romeu pour refaire un peu de compétition avant les Europes, pour prendre quelques points de repère et pour me secouer un peu le corps en compétition, parce que c'est toujours différent de l'entraînement. Mais je pense que ça va être comme ça, 2 1500, le 5000 aux Europes, qui va être une belle répétition avec une course tactique, ensuite en fonction des France. Et après la seule question c'est au retour de mon stage à Saint-Moritz, à peu près à J-20 avant les Jeux, est-ce qu'on va faire une compétition ici ou est-ce qu'on va préférer faire de l'entraînement? Ça, on n'a pas encore décidé. On verra en fonction de comment ça se passe au mois de juin.
D'accord. Donc justement, quand on parle des championnats d'Europe, on peut parler de ton meilleur ennemi espagnol, Mohamed Khatir, là, qui t'avait bousculé en finale du 5000 mètres des championnats d'Europe et qui vient d'être rattrapé par la patrouille pour des manquements au contrôle antidopage. Comment toi, à titre personnel, gères-tu ces procédures et quel est ton degré de vigilance et quelles en sont aussi au quotidien les exigences de ce suivi du contrôle antidopage?
C'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent exactement ce que ça induit au niveau de la surveillance antidopage, mais on est tous sur le même pied d'égalité, même si après il y a certaines agences antidopage qui contrôlent plus que d'autres en fonction des pays, mais tous les jours en fait on doit indiquer où on dort, l'adresse où on dort, comme ça les contrôleurs peuvent venir soit le soir soit le matin nous contrôler, et on doit indiquer dans la journée nos entraînements réguliers, c'est-à-dire que si tous les jours, enfin toutes les semaines, le mardi matin, on va au stade de Bressure, il faut l'indiquer. Et après, il y a une heure dans la journée où on doit indiquer où on est. Et là, le contrôleur peut venir. Et s'il vient, mais qu'il remarque qu'on n'est pas là, ça nous fait un manquement aux obligations. Et au bout de 3 manquements en moins d'un an, on se fait sanctionner. Donc c'est ce qui est arrivé à Mokatir. C'est fait pour qu'on puisse être localisable, pour qu'on puisse se faire contrôler, parce qu'il y en a beaucoup dans ceux qui trichent, qui en fait remplissent mal leurs données de localisation pour ne pas se faire contrôler. Donc oui, c'est une obligation pour tout le monde, c'est un peu exigeant, mais une fois qu'on a pris le pli, voilà, ça fait partie du métier de toute façon. La plupart des gens remplissent bien, et voilà, après ça peut arriver dans loupé un dans l'année, une négligence, un changement au dernier moment d'endroit où on dort ou des choses comme ça, mais la plupart des cas où c'est 3 contrôles loupés dans une année, c'est que il y a eu une négligence qui n'en était pas une, et c'est plutôt des gens qui jouent avec le système plutôt. Donc voilà, après c'est pas un contrôle positif pour lui, mais ça fait quand même 2 ans de suspension. Donc voilà, après quand on voit comment ça a été célébré par beaucoup d'athlètes internationaux, je pense que ça montre bien le peu d'estime qu'ils ont pour Mokatir, et peu croient en lui, je pense.
Et puis ces contrôles sont importants pour l'éthique de la compétition, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Nous on milite pour qu'il y ait le plus de contrôles possible. On sait qu'il y a des pays où il y a moins de contrôles, donc on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Mais depuis quelques années, là, il y a une autorité indépendante qui fait les contrôles au niveau de l'athlétisme, et on voit que ça a de grands résultats. Donc c'est très bien, et c'est pour ça que c'est important que tout le monde joue le jeu, quoi.
Merci Hugo, merci pour ta disponibilité. Bien entendu, nous suivrons à Colline régulièrement l'évolution de ta saison estivale qui t'amènera à cette course du 5000 mètres des Jeux Olympiques de Paris. Quelle belle aventure sportive. À bientôt Hugo.
Merci beaucoup, à bientôt.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
La seconde partie de ce sport matin dimanche du 3 mars, on parle donc basket, et Cholet qui retrouve la Betclic Elite ce week-end et la réception de Limoges cet après-midi à 14h30. Ce sera une première sous le maillot de CB pour Nick Johnson, le remplaçant de Craig Grandal, qui s'intègre bien au groupe selon le coach de CB, Laurent Villa.
On voit déjà dans le jeu, c'est vraiment un joueur qui prend vite ses décisions balle en main, parce que bon voilà, il a cette faculté de lecture de jeu et cette compréhension du jeu qui fait que sur l'entraînement il cherche des connexions avec les uns et les autres, et aussi se retrouver dans son efficacité pour les shoots. Donc c'est un bon équilibre, forcément un coéquipier qui est très apprécié, parce que c'est un joueur qui relance bien le jeu et qui rassure. En tout cas, il parle bien avec tout le monde, il parle basket, il essaie de créer des affinités de jeu, pose des questions si nécessaire pour comprendre le jeu qu'on met en place, mais il est tout de suite focus. C'est intéressant.
Laurent Villa, l'entraîneur de Cholet Basket. Cholet face à Limoges, match cet après-midi en Betclic Elite à 14h30, un match à suivre en direct sur Colline. Les commentaires cet après-midi seront assurés par Jordan Brosry et Jérémy Maginot. Toujours en basket, Jean, on passe à la Pro B.
À la Pro B, on jouait les matchs vendredi soir. La Rochelle à domicile s'impose face à Denain 83 à 66. Angers en déplacement à Paula Cortez s'impose également 83 à 79. Victoire des Poitevins à domicile face à Chalon-Reims 76 à 72. Défaite de Nantes en déplacement à Rouen 92 à 88. En Ligue féminine, on jouait également hier soir, La Roche-sur-Yon se déplaçait à Bourges. Défaite des Lyonnaises 100 à 85. Et cet après-midi, Angers se déplace à Montpellier. En National 2 masculine, hier soir, l'AS Niort a été défait à domicile par le SMM Basket, l'équipe landaise s'imposant 72 à 60.
En National 3 féminine, hier soir à Chauray, il s'est passé un truc que seul le sport peut nous apporter. Rappelons en quelques mots les données du match. Chauray, second, recevait les filles de Saran, leader et surtout vainqueur au match aller de 6 points. Les protégés du président Duflo devaient absolument battre les filles du Loiret d'au moins 6 points pour récupérer ce que l'on appelle dans le jargon du basket le point à virage, et ainsi prendre la première place du classement à 4 journées de la fin. Justement, le président Duflo s'est confié à une demi-heure du coup d'envoi de ce match ô combien important.
Je ne sais plus ce qui se passe dans ma tête. Non, beaucoup de tension, parce que bon, c'est vrai qu'à 30 minutes d'un match comme celui-ci, c'est toujours un petit peu stressant. Mais bon, ce que je vois, c'est que la salle est blindée. Je vois qu'il y a beaucoup de partenaires. Donc j'espère qu'on va assister à un beau spectacle. Et ensuite, on verra à l'issue si elle est belle ou pas. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on va suivre une belle soirée.
Et Saran est venu avec des supporters aussi. Hein.
Oui, Saran est venu avec un bus. Il y a 60 supporters. Donc je pense qu'il va y avoir une belle bataille dans les tribunes et une belle bataille sur le terrain.
Allez, c'est la mi-temps. Saran mène d'un point, 33 à 32. Alors, président Duflo, comment ça va?
On le savait depuis le début que ça allait être difficile. On a eu 7 points d'avance et puis malheureusement, on a loupé 3-4 ballons d'affilée en attaque. Et puis, elle repasse devant et ça va être une lutte jusqu'au bout. Et je pense que ça va jouer dans le dernier carton.
On a une sacrée ambiance.
Oui, en revanche, c'est un succès par rapport à l'ambiance, le public. Donc ça, c'est la fête pour le basket, ça c'est top. Ça.
L'entame du troisième carton n'est pas bon du tout pour les Chaurésiennes. Elles encaissent un 8-0 et ça ressemble plutôt jouer à sa guise. Mais c'est sans compter sur les expérimentés des Sévriennes, notamment Fatou et Leslie Matanga, pour relancer l'équipe. Moins 2 à 7 minutes 30. la salle pousse, et les Chorésiennes restent mobilisées et décrochent. Et on se demande encore comment la fameuse prolongation, 65 partout à ce moment-là, tout est remis en cause, ça rend des joues, commet des fautes. Choré joue à l'expérience et finit par l'emporter 81 à 73 plus 8 dans une salle totalement folle. Le buzzer retentit. Le président du Flo, autant vous dire, est aux anges.
Moi, j'ai pas de mots. Phénoménal, cette prolongation de rêve. Bravo, bravo, c'est génial pour le club. Je sais plus quoi dire.
Sur le terrain, les joueuses n'en reviennent toujours pas à l'image de Maëlys Kalou ou encore Flavie Rabot.
C'est énorme, franchement, on a été la chercher. Bravo à elle, mais on a été chercher à la gagne, c'est énorme. Bravo,
ah non, mais c'est incroyable, franchement, il reste plus qu'à bien finir l'année. Là, on est au top. Trop fier de cette équipe.
On lâche pas.
Bah non, et merci aux supporters.
Tout comme Fatou d'ailleurs, la capitaine de cette équipe.
Oula, là il y a trop de choses qui se mélangent. Je suis super contente, super fière de mon équipe. Mais en même temps je me dis que le travail n'est pas fini. Il nous reste 3 matchs à aller chercher. On doit aller jouer ici Riez, aller à Bressure et aller à Vertou. Ça sera pas facile parce que c'est 2 matchs en déplacement qui sont périlleux. Mais voilà, on a fait le taf. Ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est de gagner plus 5 points. Et on l'a fait. Maintenant, il faut repenser aux suites, il faut savourer, mais penser à la suite et se dire que la saison n'est pas terminée. On a une chance, on a un ticket pour une montée.
Vous êtes leader sur le terrain, vous êtes leader de ce groupe, Fatou.
Bah ouais, c'est vraiment une responsabilité qu'on m'a donnée. Et je suis contente parce que mes coéquipières ont confiance en moi. Même quand j'étais dans le dur, elles étaient là, elles me disaient qu'on pouvait le faire. Et moi, j'y ai cru jusqu'au bout parce que j'ai confiance en mon équipe. Et on a l'habitude d'être ensemble, on s'entend super bien et on le mérite. On le mérite vraiment. Et voilà quoi, je suis vraiment heureuse ici.
On revient sur ces 40 minutes. Il y a bien un moment donné, vous vous êtes dit, ça va pas le faire.
Jamais.
C'est vrai.
Non, parce que tant que le buzzer ne sonne pas, qu'il n'y a pas marqué 0-0-0-0, pour moi, on peut toujours gagner. Merci beaucoup. On va savourer.
Et du côté de Saran, le coach va très vite analyser le scénario de cette finale perdue. Morgan Langlois.
Saran n'a pas perdu le match, c'est Choré qui l'a gagné. On savait que ça allait être un combat difficile. On a été pénalisé par les fautes. Déjà avec nos intérieurs, c'était dur de rivaliser. Sans nos intérieurs, ça devient une mission impossible. Pourtant, voilà, on a la balle de match, on la rate, on fait des mauvais choix, elle met dedans. Enfin, ça reste la beauté du basket. C'est comme ça. Je peux pas reprocher à mes filles de pas s'être battu, on n'a pas pu rivaliser par le manque de rotation sur la prolongation. Ça se joue à des détails. On les a en main les détails et on les gâche. C'est un peu le.
Ouais, parce qu'on a vraiment senti au vu des 40 minutes que vous aviez la main. À un moment donné, je vous ai bien observé, jamais dans la panique, en train de pianoter sur un superbe effectif. Puis il y a le petit grain de sable.
Il y a le petit grain de sable, je pense que voilà, c'est une équipe qui est jeune et aujourd'hui il y avait une pression qui s'est installée sur la fin de match. On n'a pas géré la pression, contrairement à elle qui était à domicile avec certaines joueuses d'expérience. Ça fait la différence, elles vont mettre les petits paniers qu'il faut, elles vont mettre les lancers francs, chose que nous on a du mal à marquer nos paniers, on a du mal à marquer les lancers francs sur les dernières situations. Je suis triste pour les filles parce que on a fait un tellement beau parcours que c'est dommage de s'arrêter. Il reste encore 3 matchs.
Ouais, justement, il reste 3 matchs. C'est mort ou il y a encore un brin d'espoir?
Maintenant, le brin d'espoir, c'est le faux pas de Choré. Il faudrait que Choré perde pour que nous, on gagne les 3 et que Choré perde. C'était le scénario le pire.
Quant à Tristan, là, et maintenant, vous vous souvenez de l'ancien professionnel des Chamois Niortais? Eh bien, l'ancien footballeur connaît parfaitement bien le basket et son regard est extrêmement intéressant, justement, sur cette belle, très belle victoire chorésienne hier soir.
Le plus fort ne gagne pas toujours, mais aujourd'hui, les filles de Chorès se sont accrochées jusqu'au bout. Ils ont cru jusqu'au bout et au final, elles ont été récompensées. Le public, je pense, a joué un rôle énorme aujourd'hui. On l'a vu à travers les lancers francs loupés par Saran sur les dernières minutes, qui était vachement important. Mais voilà, ça récompense un groupe, je pense, qui travaille très bien depuis le début de saison. Et on a vu surtout l'engouement du public ici qui les a poussés, qui les a galvanisés. On voit très bien la force de cette équipe-là, et ils sont très très dominants à l'intérieur. un peu moins de solutions sur les extérieurs, mais voilà, ils ont de l'expérience aussi avec Fatou à la main, qui leur apporte énormément, et on voit que bah, voilà, ça, la chimie a plutôt bien pris entre les anciennes et les nouvelles, et voilà, c'est aussi le travail remarquable de Simon, faut le signaler.
Choré n'a plus que 3 matchs à disputer pour valider enfin, et ce serait amplement mérité, cette fameuse montée en National 2. En tout cas, hier soir, le sport nous a réservé de bien belles surprises. Reportage complet signé Vincent Nori. Je vous rappelle cette belle victoire donc de Choré face à Saran hier soir, 81-73 après prolongation. Toujours en basket, quelques rencontres à suivre, Jean.
À suivre, oui, cet après-midi, donc l'équipe de Chantonnay-Saint-Germain se déplace à Fétia. Le Poissonnet accueillera l'équipe de Limoges ABC. Les Herbiers seront également en déplacement à Olivet, de même que les Bressuirès qui iront à Vertoux. En National 3 masculine, hier soir, Brissac s'est imposé à la Séguillière, 98-61.
Toujours en basket, le BCDC, qui regroupe les clubs de Cerise et Lepin et Combrant, organise aujourd'hui, dimanche, la 4e journée du tour 3-3 des Deux-Sèvres. Une trentaine d'équipes, des U13 aux seniors, sont actuellement rassemblées à la salle Omnisport Paul Rabouin de Cerisay. Émilie Robin est la coprésidente du basket club du Cerisay.
Ça a débuté un petit peu avec le Covid, en fait. Hein. On a repris un petit peu parce que ça se joue sur l'extérieur, normalement. Hein. C'est un petit peu du basket de rue. Donc, c'est un petit peu ça l'emblème du 3-3 et la force du 3-3. Donc voilà, ça a un petit peu redébuté comme ça. Et puis, c'est vrai que le BCDC, ben, on a bien matché avec ce genre de pratique. Donc, voilà. On est sur le tour 79, du coup, donc plusieurs étapes dans le département. Sur ce premier tour, et après il y aura le summer tour à partir du mois de mai jusque début juillet. La finale aura lieu au Flip, comme tous les ans. Bah, plusieurs étapes organisées, donc des tournois de la catégorie U13 à seniors masculins et féminins. Donc, on commence par les jeunes, donc c'est un tournoi U13, U15 mixte, donc de 9h30 jusqu'à 12h30 à peu près. Après on enchaînera avec le tournoi des seniors filles, U18 filles, pour finir par les garçons, donc U17 masculins et seniors masculins.
Est-ce que vous voulez dire que tous les clubs de Sévriens sont investis dans ce tournoi ?
Alors, plus ou moins, on va dire. Il y en a qui sont investis beaucoup. Hein. Nos binômes de Plaine et Sèvres sont très investis. Le comité, hein, forcément, porte le 3-3. Et puis, Choret, cette année, commence à s'investir. On a nos collègues de la Chapelle Saint-Laurent aussi qui se sont investis l'année dernière. Voilà, ça commence à prendre un petit peu sur le département. Mais effectivement, il y a des clubs qui sont un peu plus porteurs que d'autres. Alors, l'intérêt de jouer 3-3, c'est du coup, c'est très rapide. En fait, on a 12 secondes pour attaquer. Okay. Et pas une seconde de plus. Donc voilà, ça, on réfléchit pas au 3-3. C'est vraiment sur de l'individualité et puis du démarquage. Et voilà, ça se joue très, très rapidement. C'est le cardio monte à fond à ce moment-là et on n'a pas trop le temps de réfléchir, en fait. L'intérêt, du coup, des tournois 3-3 et de ces disciplines, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de licence, en fait. Donc, n'importe qui peut venir jouer. Alors, il y a une petite participation pour être assuré sur ce moment-là. Et c'est vraiment ouvert à tous. Et ça, c'est chouette aussi. Voilà, on n'est pas obligé d'être que du club de Cerisay pour jouer ensemble. C'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on peut aller jouer avec ses copains qui jouent dans un autre club. Les équipes sont vraiment libres et effectivement, si quelqu'un a pas pris de licence cette année pour telle et telle raison, mais qu'elle a envie de venir matcher sur le 3-3, bah, c'est tout à fait possible.
L'intérêt, c'est quoi ? C'est le plaisir ?
Aujourd'hui, c'est ça, ouais. Et on en prend, je pense, tous du plaisir à jouer au 3-3.
Émilie Robin, coprésidente du basket club du Cerisay 1, tournoi 3-3 à suivre toute cette journée de dimanche à la salle Omnisport Paul Rabouin de Cerisay. Un petit mot de handball, Jean.
Et il y avait un seul match hier sur notre territoire. C'était en National 1, National 1 masculine. Et Pouzauge à domicile a été défait par Rezé, 28-19.
Merci de rester sur Colline. La suite de ce SMD dans un instant.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Jean, on parle football maintenant.
Et nous ouvrons cette page football, Patrice, avec un retour sur les quarts de finale de la Coupe de France qui ont lieu cette semaine, avec la victoire de Lyon qui s'impose face à Strasbourg lors de la séance de tir au but, après un match nul 0-0. Même résultat nul dans le match Valenciennes-Rouen, un but partout, et victoire des Valenciennois lors de la séance de tir au but. À signaler, dans les buts des nordistes, la présence de Jean Louchet, l'ancien gardien des Herbiers et des Chamois-Niortais. Rennes s'impose face au Puy-en-Velay 3-1. Le dernier match des quarts de finale opposera Paris Saint-Germain à Nice, match qui aura lieu le 13 mars prochain, donc avant ensuite les tirages des demi-finales. On passe maintenant à la Ligue 1 qui commençait, donc cette journée commençait vendredi soir avec le match nul entre Monaco et Paris Saint-Germain, 0-0. Et hier, Lille s'est imposé à Reims par la plus petite des marges, 1-0. Et Marseille s'est imposé largement à Clermont-Ferrand, 5-1. Cet après-midi à 13h, Nice sera en déplacement à Toulouse. À 15h, Montpellier accueillera Strasbourg. Metz se rendra à Nantes et Le Havre se rendra à Brest. À 17h, ce sera le derby breton puisque Rennes accueillera Lorient et ce soir à 20h45, Lens se déplace à Lyon. On passe maintenant aux résultats de la Ligue 2. C'est une journée de match nul et de beaucoup de 0-0. Saint-Étienne à Paris FC, donc 0-0. Concarneau Dunkerque, 2-2. Annecy Quevilly-Rouen, 3 Guingamp. Valenciennes-Auxerre, match nul 0-0. Bordeaux-Rodez, 2-2. Amiens-Laval, 1-0. Bastia s'impose quand même face à Grenoble, 1-0. Et Caen, en déplacement à Pau, s'impose 3-2. Reste un match dans cette journée. Lundi soir, Angers-Ajaccio.
En national, maintenant, pour vous rappeler, vendredi, la victoire de Cholet face à Dijon, 2-1. Niort s'impose à domicile face à Marignane, 3-2. En national 2, à retenir la victoire de La Roche-sur-Yon face à Romorantin, 2-0. En national 3 maintenant, Jean.
National 3, donc hier, on jouait des matchs en retard, sauf celui de Château-Gontier-Fontenay, à nouveau reporté. Le Poiré et Vertou ont fait match nul, 2-0. Choré s'est imposé dans le derby niortais à la réserve des Chamois, 1-0. Et belle victoire et importante victoire de la Saint-Étienne contre Saint-Nazaire, 4-0, avec des buts de Félissé, Grelier, Burgot et Sachaud. Un bravo aux joueurs pour Charles Devineau, le coach de la Saint-Étienne.
Bravo aux joueurs, c'est des matchs aussi qui peuvent être stressants parce que c'est un fort enjeu. Et nous, on avait décidé de les mettre à 6 points pour éviter de les revoir trop vite. Donc, on sait bien, c'est un bon contenu. Différents buteurs, on a eu de la casse, on a un peu peur à la mi-temps parce qu'on a sorti 2 joueurs sur Sivière. Donc, on pouvait être inquiet, même si on menait 15-0. C'est toujours des scénarios qui peuvent être compliqués à gérer pour les jeunes joueurs. Mais ça a été bien fait et bravo, ils le méritent, les gars. Ils ont mangé pas mal de pain noir, des entraînements où ça pouvait être compliqué parce que quand tu perds ou que tu fais match nul ou que t'as pas les résultats que tu veux, c'est compliqué de s'y remettre, mais ils s'accrochent, donc c'est bien.
Charles Devineau, l'entraîneur de la Châtaigneraie, belle victoire donc de l'équipe vendéenne face à Saint-Nazaire, 4-0. En Régional 1, à retenir le match nul entre Guéret et Thouars, 1-0. La victoire de Buxerolles face à Rochefort, 3-1. Sur le même score, Neuville s'impose à domicile face à Poitiers. La rencontre entre Bressuire et La Rochelle a été reportée. Report également des rencontres qui étaient prévues cet après-midi entre Chauvigny et Saint-Jean-d'Angély et entre l'Étoile Maritime et Nueil-Aubier.
En Régional 2, hier soir, la rencontre entre Nintré et la S13 a été reportée, de même que celle de Périgny qui devait accueillir Beaumont-Saint-Cyr et celle de Sainte qui devait accueillir l'équipe du Talus. Par contre, match nul entre Thouars et Ligugé, 1-0. Et puis Dompierre-sur-Mer s'est imposé à domicile face à Parthenay-Viennet, 3-1. Cet après-midi, Montcoutan devait recevoir l'Avenir 79, mais le match est reporté. En Régional 2, dans la poule C, Niort-Saint-Liguerre contre Libourne, Niort Saint-Florent reporté. Et Saint-Émilionnais Échiré Saint-Gelais reporté.
En Régional 3 dans la poule A, reporté le match entre Cerisay et Mignalou, ainsi que la rencontre qui devait opposer l'Alleu à Neuville. Cet après-midi, si tout va bien, Aubin-Orté sera opposé à Vrines. Interbocage jouera face à la réserve de Bressuire, match qui aura lieu à Combran. Reporté la rencontre entre Caponis et Mioxens, ainsi que la rencontre entre Ozon et Onis AFC. En Régional 3 dans la poule B, reporté la rencontre rencontre entre FC Outiz et Noyers. Cet après-midi, Fontaine-le-Comte devrait jouer face au Pays Mélois. Reporter les rencontres entre Saint-Sauveur et Buxerolles et également entre Vouillé et Châtellerault en Régional 3. Toujours dans la poule, c'est maintenant. Salverine et Cognac ont fait match nul, un but partout. Angoulême, Bassot face à Niort, Saint-Liguer, match reporté. Cet après-midi, en théorie, Niort-Saint-Florent devrait jouer à domicile à réserve face à Marennes.
Et on va aller très vite sur les championnats départementaux, puisque suite à la décision du district, l'ensemble des matchs des départementales 1 et des départementales 2, en poule nord et en poule sud, ont été reportés.
En volleyball, en National 2 féminine, cet après-midi, le VPP Niort sera opposé à Pau, en National 2 chez les garçons. Déplacement des Niortais à Mérignac. On arrive au ballon ovale, Jean.
En rugby, donc, match important ce soir pour La Rochelle à domicile qui accueille Clermont-Ferrand. Hier soir, défaite des Niortais en déplacement en marque en Barœul, alors sur la plus petite des marges, 12 à 11. En Fédéral 3, cet après-midi, donc Chauray recevra Angers. En Régional 2, Nouvelle-Aquitaine, le COP 79 accueillera Nieul-Espoir. En Régional 3, l'Entente Niort accueillera Saint-Mexant et Mel accueillera l'équipe de Poitiers.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, on parle tennis maintenant avec les finales ce dimanche du tournoi de Mauléon. Un tournoi qui célèbre d'ailleurs ses 30 ans cette année, entamé le 16 février dernier. Ce tournoi est coordonné par Simon Drouet.
C'est que des licenciés de la Fédération française de tennis. Et puis, c'est des joueurs qui naviguent autour du Maine-et-Loire, un petit peu la Vendée et bien sûr les Deux-Sèvres, qui font partie quand même du gros lot des inscriptions. On a trois finales. On a une finale homme, une finale dame et une finale homme plus de 35 ans. Pour la finale homme, en tout cas, c'est la même finale que l'année dernière avec Brian Harpin et Adrien Lemoine qui vont s'affronter. Alors, chez les filles, c'est Catherine Gervais qui va affronter Madeleine Boyau. Il y a la convivialité que les gens viennent aussi chercher. Et donc après, il y a des prix soit en euros et un trophée remporté.
Les finales qui se déroulent donc toute cette journée à la salle Sainte-Anne de Mauléon. La grande finale est prévue à 16h cet après-midi. Un petit mot de judo, Jean.
Judo, puisqu'hier se déroulaient les championnats de France junior. Le Créchois Anatole Guillard, qui est devenu champion de France en moins de 60 kilos en disposant du Parisien Kelvin Ray. Deux autres médailles ont été obtenues par les deux Sévriens. Thiago Atolon, du Dojo Sud de Sèvres, médaille d'argent en moins de 55 kilos. Et Alice Lopez, du Dan 79, en bronze de médaille de bronze, donc en moins de 48 kilos. À suivre ce dimanche après-midi, les deux Sévriennes, Sandra Darbès-Takam, en moins de 78 kilos. Et Léonie Minkanda-Kakino, en plus de 78 kilos.